Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est pas Bart qui parle, mais c'est Élise. Donc, certains m'ont peut-être entendu sur un podcast il y a un peu plus d'un mois, je pense, en octobre. J'ai eu la chance d'être contactée par Barthélémy pour faire un petit podcast suite à mon record. Mais aujourd'hui, on va pas parler de moi. On va parler de Bart. Je lui ai volé le micro. Et en fait, je souhaitais un petit peu le mettre en avant parce que on le connaît finalement peu. C'est beaucoup les athlètes qui parlent pendant ces podcasts. Mais à force de l'écouter, moi, j'avais envie de le connaître un peu plus. J'avais envie qu'il se mette un peu plus en avant parce que je pense qu'il peut aussi avoir une dose d'inspiration pour nous tous. Parce que je trouve que avoir lancé le podcast extraterrien, fallait c'est un défi. Je trouve que c'est un gros défi et on en parlera après, mais je pense qu'on pourra en faire un petit bilan après un an et demi, et en juillet 2019. Ouais. Donc je vais laisser Bart saluer son public habituel.
Mais salut Elise, écoute, introduction super chaleureuse et. Mais je pensais sortir cet épisode pour effectivement le bilan un petit peu de fin d'année. Je pense que ça sera le bon moment et merci beaucoup pour cette proposition. J'ai un petit peu peur. Je sais pas trop à quelle sauce je vais être dévoré parce que on s'est pas envoyé la question. On est parti sur un coup de tête. Genre il y a 2 semaines, on s'est dit allez on le fait et tu m'as proposé de le faire et je pouvais pas refuser. Et surtout qu'on s'était pas rencontrés en vrai. Et du coup c'est un énorme plaisir de se rencontrer en vrai aujourd'hui. Donc je te laisse.
C'est ça aussi. En fait j'étais un peu frustrée de. Toi comme moi, on aime bien la relation humaine. Ouais. On a besoin de ça, je pense, au quotidien. C'est ce que j'ai pu cerner dans tous tes podcasts. C'est ce que je te disais aussi. Et en fait, quand j'ai écouté Pierre-Ambroise Boss, j'adorais le fait qu'il te retourne la question. Et ouais. Là, ça m'a donné une idée. Et là, j'ai envoyé un petit message à Bart en lui disant « Mais il faudrait que tu fasses un podcast inversé, parce qu'on a envie aussi d'en savoir plus sur toi. » Et ni une ni deux, il m'a dit « Pourquoi pas toi ?» Et j'ai dit « Ok. » Voilà pourquoi on est là ce soir. Je pense que dans la philosophie de vie qu'on a, elle est un petit peu identique. C'est on a une idée, on fonce. Donc voilà pourquoi je vais inverser les rôles et avoir le plaisir de lui poser quelques questions.
Allez.
Mais bien sûr, la question qu'on a tous, quel est ton premier moment de sport?
Mon premier souvenir de sport, ouais. J'ai un très bon souvenir d'activité physique où je pense que je devais avoir 3-4 ans et j'adorais les ponts de singes. Je faisais un pont de singe et je me pendais par les pieds et je suis tombé sur la tête. Ouais. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu l'attention de beaucoup de gens d'un coup. De ma mère qui était très affolée, du gardien du parc qui était très affolé aussi, des pompiers après, c'était dans un parc où je faisais énormément de sport et d'activités avec mes copains. Tu sais, il y avait une grande araignée, il y avait des ponts de singes, il y avait un énorme terrain de foot. Et c'est là que, alors derrière cette petite anecdote, c'est là où je passais beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Et ma mère qui m'y amenait, je pense, tous les mercredis et tous les samedis. Donc c'est ça c'est, on va dire, le premier souvenir d'activité physique. Après, j'ai un autre souvenir, le premier sport que j'ai fait. J'en ai fait, je pense, de mes 3 à 6, 7 ans, quelque chose comme ça.
T'as démarré super tôt, à 3 ans, c'est super tôt. Mais t'avais des parents sportifs.
J'ai des parents très très sportifs. Ma mère très très jeune, elle faisait des énormes sorties vélo avec son père. Elle a fait plus ou moins les championnats de France en cyclisme féminin. Et je sais, alors il y a une petite histoire avec le Tour de France féminin. Il a existé, puis il a pu exister. Alors faudrait que je lui redemande. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, je suis désolé, je connais plus trop l'histoire. Mais en tout cas, elle faisait énormément de vélo avec son papa. Et donc c'était une grande grande sportive, passionnée de randonnée aussi énormément. Et mon père, il a fait les championnats de France de judo junior. Donc
t'as toujours été baigné en fait dans ce monde sportif, mais aussi de la compétition. Donc c'est ça aussi.
Un peu ouais. Ouais. La compétition, je pense, c'est plus par mon père. Ma mère, c'est plus une passionnée de sport, sans être passionnée de compétition, je pense. Okay. Et je pense que d'ailleurs, si moi j'ai jamais réussi dans le sport, c'est peut-être parce que j'ai ce gène de ma maman où on est très émotionnels tous les deux et du coup on.
Tu vis tellement intensément la chose que du coup ça devient trop quoi.
Ouais,
au moment.
Exactement, exactement. Mais du coup non, j'ai un souvenir de sport assez terrible. Je faisais de la gym, la gymnastique. Et c'était un énorme, enfin, pour les enfants, c'est génial parce qu'on était dans une énorme piscine de mousse et tout. Et je sais que il fallait faire à la fin de chaque entraînement, il fallait faire des abdos. c'est la planche, il fallait faire la cuillère, et j'ai un souvenir tellement horrible où en fait à chaque fois que quelqu'un craquait sur la planche, tout le groupe devait recommencer. Et j'étais solidarité. J'étais ce gamin, tu vois, j'étais le petit du groupe qui craquait et qui arrivait pas à faire deux minutes d'affilée en planche et qui faisait recommencer tout le monde. Et mon père qui était là et qui venait me chercher et qui disait allez Bart, tu vas y arriver, c'est pas grave, et qui m'encourageait, et je pense que tous les autres parents me détestaient et détestaient mon père. Et mon père, il s'en foutait, il disait allez, c'est pas grave, tu vas continuer, tu vas y arriver,
et t'as réussi.
Peut-être pas aujourd'hui, et après quelques séances, ouais, j'ai voilà. réussi après quelques
c'est,
séances.
C'est ça qu'il faut retenir, en fait.
Exactement.
Et justement, la relation avec ton père, tu vois, ce souvenir que t'as où il te soutenait dans cet effort, et c'était déjà à moitié une compétition, on va dire.
Ouais, peut-être, ouais, peut-être. J'ai un papa qui est très, très élitiste et qui pousse vraiment les gens dans leur retranchement et vers le haut. En tout cas, ses deux fils. Et ça a eu beaucoup de très, très bons effets sur moi, je pense. Celui de jamais rien lâcher, d'apprendre, de pas avoir d'ego aussi. De quand on se mange les pieds dans le tapis devant tout le monde, et ben, c'est pas grave, on se relève et puis on recommence.
Mais ça, c'est des belles valeurs pour arriver dans la vie active.
Enfin, ouais.
Je pense que c'est un pilier pour justement dans la vie, on se prend toujours des gamelles, donc quoi qu'il arrive, si on n'est pas forgé dès le plus jeune âge, ça n'ira pas. Donc ça, ouais, c'est une super valeur qui t'a transmis.
C'est clair. Et après, bah, t'as forcément peut-être des effets un peu plus sombres, ou un petit peu peut-être qui m'ont moins apporté, tu vois, la pression constante, le fait que je pense que mon père m'a jamais dit qu'il était fier de moi, et je le sais, hein, et j'ai même des potes qui me disent mais va voir ton père et dis-lui.
Il écoute le podcast ou pas?
Je sais même pas s'il écoute. Je sais que ma mère a écouté quelques épisodes. Mon frère en écoute de plus en plus, tu vois, il a écouté Pierre Ambroise. Je pense qu'aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est la sortie de l'épisode de Cléopâtre d'Arleux. Donc mon frère a fait du hand, donc j'imagine qu'il aura écouté. Mais mon père, je sais pas. Et mon père, je l'ai saoulé, parce que tu sais que mon père, il a eu des gros problèmes de genoux, et il va tous les matins au bureau à pied. Donc c'est 1h15, je crois, de marche, et je lui dis mais il y a un super truc que tu pourrais faire pendant tes marches, ça serait écouter des podcasts. Et je lui ai pas dit de m'écouter moi, je lui ai dit d'écouter des replays de radio, je lui ai dit d'écouter ça. Et je crois qu'il n'en a pas écouté beaucoup. Je pense pas qu'il en ait écouté beaucoup. Mais
il y en a peut-être un qu'il faudra qu'il écoute, c'est celui-là. Alors. Parce qu'il y a message, ouais. Il y a un petit message qui est passé là quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, du coup, mon père m'a transmis énormément, énormément, énormément de bonnes choses, ça c'est sûr. Et après, ouais, des petites choses, tu vois, mais je pense comme toutes les petites névroses entre papa et fiston, quoi. Voilà.
Non, mais c'est intéressant, parce que tu vois, je
vous découvre.
T'as la capacité, et j'arrive pas, enfin, ça, tu vois, je retrouve dans peu de podcasts, c'est ta capacité à aller chercher justement des sujets où les athlètes vont pas forcément se dévoiler dans une interview X ou Y, et t'arrives à aller chercher des points on va dire un peu sombres de la personne, et ça je trouve que c'est vraiment un truc que t'as en toi, je pense, que tu soupçonnais peut-être pas avant.
Non,
mais,
pas du tout.
Voilà, mais franchement, je trouve que c'est hyper balèze, et je vais pas dire que c'est la psychologie, mais je trouve que t'as une capacité à faire ressortir ça. Tu vois, sur mon podcast, tu m'as pris de court, parce que dès le début du podcast, on a parlé de mon frère, et c'est un sujet dont je ne parle pas facilement, enfin, je suis assez fermée là-dessus, et je me suis dit, waouh, là, t'as tapé directement dans le vif du sujet, et justement, voilà, ce qui est mon leitmotiv, moi, dans ma pratique du sport. Et c'est pour ça que même quand je t'écoute sur le podcast, je me dis, encore une fois, là, t'avais réussi sur plein d'écoutes. Je vois que t'arrives à trouver, bon, pas dire la faille, mais la...
Pas toujours, hein. Des fois, je suis un peu frustré de pas avoir trouvé
le sujet.
Ouais.
Mais voilà. Donc là, ça me fait plaisir que tu vois, tu nous parles aussi justement de ce côté où t'aimerais bien entendre ton papa qui te dise qu'il est fier de toi, alors que c'est tellement simple aussi.
J'ai, tu vois, j'avais un peu en préparant un peu, je m'étais dit bon, Il y a des choses que j'ai jamais dit sur justement à mes auditeurs et tout, et je me dis bon, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et moi, on en reparlera, mais il y a peut-être d'autres petits sujets, quoi.
Ah, tu pourras toujours refaire un podcast dans quelques temps, le bilan des deux ans. Et...
Je laisse les questions arriver.
Voilà. Ensuite, alors ouais, moi j'ai préparé quelques questions. Je suis pas sûre qu'on arrive à tout aborder, mais voilà, c'était
Vas-y, on a le temps.
La création, la naissance du podcast, comment t'as eu l'idée de faire ça? Alors après, je sais que t'étais en recherche d'un podcast bien spécifique que t'as pas trouvé, et du coup t'as voulu en créer un à ton image, mais faut oser, quoi. Enfin, c'est comme dans des défis sportifs, à un moment c'est bien d'avoir une idée, mais il y en a beaucoup qui disent je ferais bien, mais jamais ils vont se lancer. Donc ça, voilà, c'est toute la genèse autour de ça
qui t'intéresse.
Ouais.
Ok. Déjà j'écoutais énormément de podcasts. Je commençais à en écouter de plus en plus de différents styles, des podcasts américains, des podcasts français, des podcasts très business, très développement personnel. Et puis je commençais aussi à écouter des podcasts un peu de fiction, de reportage, tu vois, comme Les Braqueurs ou comme Transfert sur Slate et tout. D'ailleurs, mon podcast préféré vraiment, ça s'appelle Les Braqueurs, et vous pouvez aller regarder. C'est fait par Arte Radio. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'audio, tu vois. C'est un peu comme un Xavier Nolan au téléphone, tu vois, ou un Cameron, tu vois. C'est magnifique. Et du coup, je commençais à en écouter effectivement beaucoup, et du coup, je commençais à avoir vraiment cette culture, et j'aimais beaucoup. Et à l'époque, j'avais co-créé une boîte qui était un site de rencontre qui s'appelait Abrico. Et j'ai eu les 12 derniers mois de cette expérience qui ont été très très sombres pour moi. J'ai fait pas mal de conneries sur ma santé, sur émotionnellement qui j'étais, par rapport à mes objectifs. Je remplaçais pas du tout mes objectifs de vie. J'ai fait des expériences un peu sombres, tu vois. Et justement, je te disais que j'allais dire des trucs que je dis pas souvent, mais je pense que en un an, j'ai dû essayer au moins 5 ou 6 drogues dures différentes. J'ai quasiment arrêté le sport complètement.
Pas compatible, ouais.
C'est pas très compatible. On faisait la fête très très intensément, et j'étais avec des gens qui étaient très très toxiques pour moi. Des gens qui m'étouffaient, qui me disaient beaucoup de paroles négatives tous les jours. Et du coup, bon, l'histoire s'est arrêtée, mais il s'avère que on avait monté un petit podcast parce que j'aimais bien ça et que ça me permettait d'aller interviewer des gens et que c'était un peu mon exutoire justement d'aller rencontrer déjà
donc,
d'autres gens.
T'avais déjà l'expérience du podcast avant.
Ouais, okay. Exactement. Donc j'avais fait quelques interviews, je pense 5 ou 6, quelque chose comme ça.
Et le thème c'était ?
Le thème c'était d'aller interviewer des femmes qui ont vachement bien réussi dans le business et de leur faire parler de leur vie sentimentale. Voilà. Donc c'était un peu, tu vois, de les détourner un peu des sujets sur lesquels on les interviewe dans les interviews classiques dans la presse, entrepreneurs, start-up, tout ça. Et du coup, ouais, l'histoire s'est terminée. Ça a été très hyper dur pour moi. J'ai perdu de l'argent, je savais plus qui j'étais. J'avais un peu vendu mon âme, quoi. J'avais un peu vendu mon âme.
T'étais pas en adéquation avec toi-même. Enfin,
plus du tout.
C'était pas toi. Enfin,
plus du tout.
C'était un moyen aussi de te raccrocher à un projet de toi à 100% en plus.
Ouais, c'est clair, exactement. Et je l'avais pas encore intellectualisé comme ça, tu vois, tout ça. Mais après coup, maintenant, ça me semble très logique. Mais et du coup, quand ça s'est arrêté, j'ai eu 2 jours où ça allait très mal. Et le 3e jour, je me suis dit, c'est très simple, hein, pour casser un début de dépression, le meilleur moyen, c'est de faire de l'activité physique et de rencontrer des gens. Ouais. Et donc je suis parti courir, j'ai mis mes chaussures, je me suis mis un petit podcast comme d'habitude, pas envie d'écouter des entrepreneurs, pas envie de me mettre la pression, pas envie de parler de business, j'ai envie de me remettre au sport, quoi. C'était toute ma vie, le sport. Avant cette expérience professionnelle, c'était vraiment toute ma vie. Je pense que j'ai
c'était un besoin, c'était ta drogue quotidienne.
Ah mais depuis que j'ai 2 ou 3 ans, je fais au moins 4 ou 5 fois de l'activité physique par jour, quoi. Tout le temps, sauf cette dernière année-là.
Et tu t'es rendu compte que, du coup, ouais, t'es passé de la drogue du sport à d'autres, et tu t'es rendu compte que ça n'allait pas du tout, c'était pas toi, donc t'as voulu, mais t'as pris conscience très rapidement quand même, c'est bien, enfin, ça a pas duré non. Des années non plus, que voilà, il fallait retourner dans ta vie d'avant, quelque chose de plus sain.
Ouais, ouais, exactement. Et tu vois, autant j'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, ça me fait aussi prendre conscience de mes faiblesses, tu vois,
Je pense que c'est ça aussi qui t'a donné la capacité à aller de l'avant et à foncer et à dire, de toute façon, il faut que je tente.
Oh ouais, c'est clair, c'est clair.
La vie est courte et si je le fais pas, je saurais jamais. Donc, et peut-être qu'avant, je pense que t'étais plus dans la réflexion. Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, est-ce que.
Ouais.
Et du coup, tu t'es moins de dans la tête et tu vas de l'avant.
Ouais, exactement, ouais. Exactement. Mais c'est tout à fait ça, tu vois, avec le recul, c'est exactement ce qui s'est passé et ouais, et puis je sais pas, j'ai cette idée de, je cherche des podcasts de sport, il y en a un ou deux, j'aime bien, mais ça me correspond pas. Et je me dis pourquoi pas moi, quoi. Et je rentre chez moi et je me dis et je poste un petit message sur LinkedIn. Je pense ça devait faire 3 ou 4 jours que j'avais arrêté cette boîte et j'ai énorme coup de chance, quoi. J'ai 3 copains qui me répondent et qui me disent bah si je peux te présenter à un tel et ces 3 personnes là c'était des vrais champions. C'était vraiment des vrais champions. Il y avait Arthur Guérin-Boëri qui a 3 ou 4 records du monde en apnée dynamique. Donc déjà c'était quelque chose. J'avais Jérémy Azou qui est 10 fois champion de France, 5 fois champion du monde et champion olympique d'aviron de couple. Donc c'est un type, il a un palmarès incroyable et c'est un dieu vivant de l'aviron, quoi.
Je te coupe, mais vas-y. Moi je suis toujours impressionnée de ta capacité à connaître justement tous ces gens qui font des sports tellement différents. Enfin, moi j'avoue, hein, tu me fais connaître justement des personnes que je n'aurais jamais connues qui font un sport hyper dur, hyper compliqué. Enfin, et c'est ça, ta richesse aussi, elle est là, c'est que tu m'impressionnes dans cette manière de pouvoir connaître tellement de, tu connais pas le palmarès de plein de personnes.
Ouais.
T'as une, voilà. Bien. Après, je pense que d'avoir évolué dans une famille sportive, ça t'a aidé aussi. Mais, mais ça, enfin, c'est une grosse force que t'as et tu l'exploites. Enfin, c'est génial. Enfin, t'arrives aujourd'hui à justement utiliser cette capacité à en connaître autant pour faire un truc génial avec le podcast, quoi. Je t'ai coupé, mais c'est ce que je voulais dire aussi.
Mais figure-toi que c'est pas venu comme ça, hein. Franchement, j'ai bossé quand même. J'ai bossé au tout début, quand je me retrouve face à Arthur, premier épisode, j'ai passé 5 jours à réviser sur l'apnée, à réviser mon matos et tout, et j'arrive et je bégaye, j'oublie d'appuyer sur play, donc on parle pendant 20 minutes, j'ai rien enregistré, et au bout de 20 minutes, je m'en rends compte, et je me dis, pendant 2 minutes, je lui dis, soit je lui dis, et on doit tout recommencer, et il va être vénère, mais soit je lui dis pas, et j'ai tout perdu, et j'ai l'air vraiment, je suis encore plus débile, tu vois. Du coup, je lui dis, mais il l'a bien pris, on a tout recommencé, et ça s'est super bien passé, et ça fait un bon premier épisode sur lequel j'aurai un gros souvenir, mais je cherchais mes mots, j'étais avec mes fiches, je m'embrouillais et tout, puis même je m'embrouille super souvent, en fait. En podcast, tu sais que souvent je me base sur les fiches Wikipédia des athlètes. Et tu vois, avec Pierre Ambroise, typiquement,
on sentait le stress, mais c'était. Ouais. J'ai souri, j'ai même ri parfois tellement c'était. Mais j'ai vraiment adoré l'échange et on te sentait. Ouais,
j'étais stressé parce qu'en plus il y avait des chiffres qui étaient pas bons sur sa fiche Wikipédia. On dit champion d'Europe, mais on dit pas si c'est les juniors ou pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ça m'arrive très souvent de me planter. Donc, je suis très approximatif comparé à. On va dire un vrai journaliste dont c'est le métier qui va faire 50% de son temps justement, tu vois, de l'acculturation, moi...
Ouais, mais c'est son métier, on va dire, et il fait ça depuis combien de temps aussi, enfin, ils sont plus ou moins spécialisés après les journalistes, enfin, tu vois, tu peux pas comparer
Ouais.
Je trouve que t'as une capacité. Puis c'est encore plus dur. Enfin, un journaliste, il écrit. Il peut se poser tranquillement, revoir sa copie. Enfin, c'est complètement différent que là, t'as le micro et c'est maintenant et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc,
ouais, c'est vrai.
C'est différent, l'approche. Et puis c'est là où l'approche, elle est aussi sympa. Enfin, c'est ça que j'aime dans les podcasts, c'est que une interview d'un journaliste où c'est écrit, on ne retranscrit pas forcément ce que l'athlète a dit ou a voulu dire.
Mais c'est modifié, ouais.
Les podcasts, mais c'est génial. Enfin, on a l'émotion, on a la vraie vision de l'athlète. Enfin, c'est là où c'est du bonheur, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non. C'est marrant parce que j'en parle avec quelques journalistes sportifs, tu vois, et ils oseront jamais faire ce que je fais.
Ben, je m'en doute. Parce que c'est une prise de risque hyper. Enfin, ouais, t'as pas le droit. Tu risques de te planter à chaque phrase que tu dis.
Ouais. Ouais, t'engages un média, t'engages une marque, alors que bon, moi j'engage que moi, tu vois. Du coup, j'ai pas peur.
C'est là aussi, mais faut oser.
Ouais.
Quand t'es seul, mais c'est là où aussi c'est super ce que t'as fait, c'est que tout seul, c'est ton projet à toi. Enfin, pour moi, c'est un vrai défi ce que t'as fait. C'est pas un défi sportif en tant que tel, mais c'est un vrai défi déjà contre toi-même. Quand t'as démarré, c'était pas une période facile. Et là, je te poserai quelques questions sur le bilan, mais je pense que tu peux être fier de toi sur ce que t'as construit en un an et demi, quoi.
C'est pas grand-chose encore, tu vois. Je pense que quand les gens me disent ouais, bravo, t'as réussi et tout, je leur dis non, c'est que le début.
Exactement.
Je leur dis non, c'est que le début et j'ai eu une chance inouïe, c'est de du coup déjà effectivement au début d'avoir été mis en relation avec quelques champions, de pas avoir eu peur de me lancer, d'avoir su trouver un peu l'information sur comment faire et après d'avoir pris énormément de plaisir à le faire.
Et on voit que t'aimes.
Ouais.
On sent que t'aimes bien. Si ça t'embêtait, on se sentirait tout de suite. Ce serait en une demi-heure, c'est fait, voilà. Mais non. Ouais. Puis on sent que c'est. Non, t'es passionné justement de la relation à l'autre et j'ai l'impression aussi que tu veux comprendre comment l'athlète fonctionne.
Ouais. Ouais, exactement.
Ça, on sent que tu cherches.
C'est mon obsession.
À comprendre comment. Tu vois, on n'en a pas discuté avant, mais ouais. du peu que j'arrive à connaître de toi à travers ces podcasts, ça on le ressent vraiment. Et justement, t'as fait plus de 70 podcasts aujourd'hui. Ouais. La liste n'est pas finie, elle est amenée à grossir, ça c'est sûr. Mais comment, explique-nous comment toi tu t'enrichis justement des autres, parce que comme pour toi, enfin moi et toi, enfin je trouve que c'est une valeur qu'on a, c'est la relation à l'autre, on se nourrit des relations qu'on a avec les autres, de l'humain. Donc explique-nous toi comment tu arrives grâce à ce podcast à t'enrichir à ce niveau-là.
C'est une question intéressante. C'est une question très intéressante. Déjà d'un point de vue un peu égoïste, effectivement, par rapport à, tu vois, ce que je te disais avant sur qui j'étais 3 mois avant de lancer le podcast. Il y a un côté où je pense que les 6 premiers mois, je me disais, s'il y avait un seul athlète qui savait ça sur moi, je pense qu'il n'y en aura probablement aucun qui se serait laissé interviewer. Ou...
Tu vois, je pense pas, au contraire. Enfin, moi, je trouve ça encore plus. Tu vois, j'ai encore plus envie d'avoir l'interview en me disant, la preuve qu'on arrive à donner de la confiance aux autres.
Ok.
Parce que c'est ça aussi, tu t'es raccroché aussi à travers tous ces podcasts et.
Ouais. Peut-être. En tout cas, moi, je me suis dit ça. Donc, je me suis dit que c'était le fait d'aller voir une personne différente toutes les semaines, ça me mettait dans un espèce de rythme où toutes les semaines, je devais être la meilleure version de moi-même et toutes les semaines, je devais essayer de me renouveler, de me réinventer. Et ça m'apprend ça. Déjà, ça m'apprend ça. C'est vraiment, je peux être très très bon, tu vois, sur une interview. Je peux faire une super interview avec un athlète et la semaine d'après rencontrer un ou une athlète et être royalement nul et du coup apprendre à se renouveler et à renouveler la performance tout le temps. Ça, c'est un truc, c'est vraiment un challenge. Ça, c'est vraiment si quelque chose de fatigant dans l'exercice, c'est ça. Parce que parce que je le vois tout de suite en fait. Dès que je fais un truc nul, je le vois tout de suite. Je reçois pas de message d'auditeur. Quand c'est super bien, tu vois, bah typiquement ton épisode, j'ai reçu, je pense, au moins 50 messages dans la journée, tu vois, okay, de gens qui m'ont dit mais trop cool, je la connaissais pas. Je connaissais Stéphane Brognard, je connaissais Sylvain Cusso, je connaissais Benoît Gérandel, mais je connaissais pas Élise.
Ça fait plaisir, ouais.
Et donc
bon,
tu vois.
On a passé un bon moment, j'avoue que ouais, mais j'avais vraiment bien aimé cet échange.
Et tu vois, et du coup je le sens tout de suite. Et quand c'est beaucoup moins bien, je le sais tout de suite aussi parce que j'ai pas de retour direct. Donc
ça peut pas non plus être, c'est normal aussi. Enfin, puis après, c'est là l'échange aussi. Enfin, c'est ouais, toi qui fais le podcast, mais il faut aussi qu'il y ait du répondant derrière. Enfin, c'est un échange.
Bien sûr. Donc,
ce n'est pas que toi qui peux faire en sorte que ce soit de qualité plus à chaque fois, quoi.
Ouais, là c'est aussi, vrai. Ça dépend pas que de moi.
Bah non, tu peux pas faire dire à un athlète s'il a pas envie de communiquer et s'il répond par des oui, non et t'arrives pas à creuser, c'est sûr que ça va être moins intéressant.
Ah ouais, clairement, ouais, clairement. Mais du coup, ouais, non, ça m'apprend déjà une discipline, une organisation. Ça c'est clair. Le fait de se remettre en question, et ça c'est trop bien. Une hygiène de vie, me mettre à jour, tu vois, sur tout ça. Et après, vraiment dans les relations avec les athlètes, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, il y a des trucs d'intervieweur, c'est comment est-ce que tu brises la glace un peu rapidement, comment est-ce que tu te mets en confiance et tout. Et ça, je savais pas du tout faire. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, vraiment juste du point de vue sportif, moi, j'ai pas réussi dans le sport. Alors que j'ai essayé beaucoup de sport.
Mais il est jamais trop tard. Tu vois, tu l'as déjà dit. J'ai failli te reprendre, mais t'as quel âge?
Ben, j'ai 30 ans.
Mais ouais, t'as 30 ans. Mais t'as encore toute la vie devant.
C'est vrai.
Tu as 30 ans, enfin.
Et tu sais, c'est trop marrant que tu me dises ça parce que ce midi, je parlais justement avec un entrepreneur que j'accompagne et qui écoute un peu extraterrien et il me disait, ça pourrait être intéressant de trouver un sport, un peu plus confidentiel, un peu moins conventionnel et peut-être aller chercher un titre, tu vois, c'est possible.
Dans l'échange qu'on a, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui tient à cœur justement de réussir dans un sport, mais le tout c'est de trouver lequel maintenant.
Enfin, ah mais clairement ouais.
Il y a plus qu'à trouver lequel, t'as plus qu'à t'essayer à quelque chose, forcément un sport que t'aimes bien quand même, parce que ce serait dommage d'exceller dans un truc que t'aimes pas faire, mais c'est juste, faut que tu trouves le bon sport, et puis
ouais c'est vrai, c'est vrai.
Que 30 ans quoi, c'est comment tu peux dire au passé j'ai pas réussi, mais non, enfin...
ouais c'est vrai, franchement t'as raison. Après je vois tellement d'athlètes olympiques ou de sport où effectivement ton pic de performance il est entre tes 25 et tes 28, 29, tu vois.
Ouais, mais y a toujours des exceptions.
Ouais, c'est vrai. Dans le trail et tout, c'est vrai. Ouais.
Tu vois, ouais, dans le trail, t'en as pas mal, ouais, des vétérans qui ont déjà fait des choses énormes.
Ouais, c'est clair.
Tu prends Marc Olmo, qui a gagné l'UTMB, je sais plus en quelle année, ouais, mais il avait quel âge? Il était en retraite. Il avait pris sa retraite. C'est quand il a commencé à avoir le temps quand il était en retraite, s'entraîner sérieusement, qu'il fait une perf mondiale, quoi.
Ouais.
Donc, tu vois.
C'est vrai. Bah, je devrais peut-être y songer d'ailleurs. Donc faudrait que j'explore peut-être plus de sport parce que j'en ai exploré beaucoup et
faut juste trouver et après autre vision des choses. Ouais voilà, non mais il y a la pétanque mais autre vision aussi, c'est moi après enfin j'ai fait des résultats mais j'aurais pas fait de résultats. Je trouve que on peut pas dire on ne réussit pas dans le sport. Tu réussis ce que t'as envie de faire et ce que le sport t'apporte. Donc faut pas non plus être toujours dans l'idée j'ai pas réussi. Non, c'est ouais, je fais du sport, j'adore ça, ça m'apporte tellement. C'est ma réussir à avoir le courage des fois d'aller courir quand il fait pas beau, tu vois, c'est déjà une victoire.
C'est déjà beaucoup. Ouais.
c'est tout ça.
Non, en ce moment, c'est dur.
Il y a quelques années, quand j'ai débuté dans le sport, tu vois, c'est mes petites victoires à moi. Quand je faisais pas de résultats de podium, je connaissais même pas le monde de la compétition. Tu vois, je suis contente, je suis allée courir alors qu'il pleuvait, quoi. Et ça, c'est une réussite, quoi. C'est aussi chercher dans ta pratique ce qui peut être des petites victoires, même si c'est pas ouais, un un truc que tu t'es mis en tête depuis tout petit et que t'as pas excellé, mais il est pas trop tard si vraiment ça te tient à cœur. Faut juste trouver le bon sport.
Ben, tu vois, moi, après, je pense vraiment que j'ai trouvé mon sport. Mon sport, il est là, tu vois.
Et ben voilà, c'est ça ce que je dis, c'est un vrai.
Il est derrière ce micro et.
Exactement.
Et du coup, bah, je m'enrichis vraiment de tout ce que les athlètes me disent pour moi, ma pratique du podcast et de l'interview. Et il y a plein de choses à en tirer. Tu vois, il y a le carnet d'entraînement. Il y a la discipline. Il y a le fait de créer des rituels, le fait de s'entourer de gens hyper compétents. Il y a le fait de, d'écrire ses objectifs. Le fait de savoir définir aussi les sacrifices qu'il faut peut-être faire.
Le temps consacré, parce que...
Le temps consacré, exactement, avoir conscience de ça. Et ben, tous ces conseils-là, je me l'applique. Et au début, je voulais faire beaucoup de choses moi-même, tout seul et tout. Et là, au bout de, effectivement, un an et demi, là, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure. En plus, j'ai eu la chance d'être mis en relation avec les bonnes personnes, avec... Et puis aussi le temps que les bonnes personnes viennent à toi. Les bonnes personnes sont venues à moi et je suis plus du tout dans la recherche des personnes, enfin des personnes qui peuvent m'accompagner. En fait, c'est eux qui sont venus en me disant bah j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble. Et
ça a un effet boule de neige, voilà, c'est le bouche à oreille qui
exactement,
fait,
ouais.
Et ton
exactement.
Réseau après se fait.
Mais surtout que tu vois, effectivement, le fait d'avoir pendant un an été tout seul dans ma petite chambre à faire mes petits podcasts et d'avoir fait le tour de France 5 fois, ouais. Ça montre aux gens que en fait, je le fais pas pour rigoler. Enfin, si je le fais pour rigoler, pour me faire plaisir, mais je le fais aussi avec.
L'analogie avec justement les athlètes, c'est ça demande une énergie, je trouve. Incroyable, parce que déjà, tu te déplaces, c'est fatigant de voyager,
ouais.
Tu te déplaces, tu vas voir les athlètes, et au moment où tu fais l'interview, t'as intérêt d'être en forme.
Ouais.
Donc tu vois, je trouve qu'il y a aussi ce côté énergétique, dépense qui est là.
Ah, clairement, ouais.
Et tu t'es mis à fond dedans, et enfin ouais, non, c'est vraiment une analogie par rapport à une vraie pratique sportive. Quoi.
Ouais, exactement, et puis il y a tous les critères de la performance, là je me fais accompagner par une coach de voix, tu vois, pour apprendre à poser ma voix, à mieux respirer, à transmettre plus d'émotions avec ma voix. Je commence à m'entourer d'une régie commerciale aussi pour pourquoi pas travailler avec des fédés, travailler avec des marques, travailler avec tout ça. Donc là c'est que le début. C'est le bilan des un an et demi, c'est que on passe la deuxième vitesse enfin. J'espère aussi travailler aussi avec une autre personne pour la partie un peu presse et booking des athlètes, tu vois. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, tu vois, avec l'équipe de France, je dis pas dans quel sport, mais avec les athlètes et tout. Donc là, tu vois, petit à petit, tous les critères un peu de la performance, bah, dans le podcast, je les applique, tu vois.
Et là, on y est, l'heure du bilan, c'est que c'est une explosion, même en si peu de temps, ça prend quand même bien forme, quoi.
Écoute, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place là. Il y a rien.
C'est le fameux effet boule de neige. Là, on est dedans, quoi. Là, c'est en train de.
Ça commence à prendre.
Il y a des choses qui prennent forme. C'est quand même beau parce que.
Je t'avoue que on pourrait en reparler. Le vrai bilan, il sera fin février, début mars.
Ah.
Là. Donc, pour l'instant,
un peu de patience. Alors.
Exactement, un peu de patience. Je vends pas l'eau de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a des belles choses qui sont en train d'être mises en place. Et même, ce qui est cool, c'est que tout est aligné. Tu vois, en fait, j'avais vachement peur parce que j'ai monté une boîte dans les médias avant, et le podcast c'est un média. Mmh. Et le problème des médias aujourd'hui, c'est que souvent, ils sont un petit peu obligés de vendre leur âme au diable aux annonceurs pour être rentable, pour marcher et tout. Et comme moi j'ai fait un truc avec des bouts de ficelle, c'est des pieds de micro et un enregistreur, il y a pas grand-chose et juste mon énergie. Bah c'est très serré niveau budget. Et là je suis hyper content parce que ce qu'on me propose c'est que des trucs où je suis vraiment aligné avec mes valeurs et je suis sûr que les auditeurs vont adorer. Parce que les marques qui m'approchent par exemple, et quand ils me proposent un truc, ils veulent apporter de la valeur aux auditeurs et avec des athlètes vraiment incroyables, soit avec des athlètes avec une histoire vraiment dingue, avec des offres qui, je pense, plairont beaucoup, tu vois.
Enfin, en adéquation, justement.
Ouais, exactement. Donc c'est cool. Donc vous verrez début 2021, pardon. Beaucoup de bonnes choses. Si vous voyez rien passer, enfin si vous entendez rien dans vos oreillettes, c'est que j'aurais mis les pieds dans le tapis et qu'il faudra attendre un peu, mais c'est pas grave.
Ah, 2021, ça va être une grande année d'écoute.
Ouais, j'espère. Normalement, ouais.
On va voir ça. Tu te disais en juillet 2019, enfin moi ce que j'aime bien aussi sur ton mur Instagram, c'est toutes les petites phrases qui sont corrélées aux athlètes.
Ouais.
Et je suis allée beaucoup de fois les consulter parce que je trouve qu'elles sont super inspirantes.
OK.
Donc ça c'est un truc qu'il faut que tu gardes, je trouve ça mais vraiment génial. Et toi t'as dit tout exploit se fait grâce à un excellent public, je compte sur vous pour qu'on entre dans la légende.
Ouais.
Alors, est-ce que tu penses être entré dans la légende, là, au niveau, quand on parle bilan ?
Non, j'y suis pas du tout encore. On se rend pas compte. Enfin, j'ai trop de chance parce que tu vois, toutes les personnes qui m'écoutent, elles sont à ton image, Élise. C'est-à-dire qu'elles sont pleines d'énergie, ultra bienveillantes. Elles me disent qu'elles apprennent à chaque épisode et je me reconnais en fait, tu vois. J'ai l'impression d'être avec mes frères, mes sœurs, mes cousins. J'ai l'impression d'être en famille et ça c'est cool. Ça c'est je suis vraiment très heureux d'avoir construit en fait, d'essayer de construire une communauté de gens qui me ressemblent et qui portent les mêmes valeurs. Exactement.
On parle de valeurs, c'est un mot que j'aime bien aussi et on parle assez peu, je trouve, de valeur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Ouais, c'est clair.
Et je trouve que voilà, là tu mets le doigt justement sur quelque chose qui est important et qu'on ressent bien.
Ouais.
Et ça, ouais, il faut que tu les gardes. Enfin, les valeurs, faut les garder.
Ouais, c'est clair.
Tout le temps.
Ouais, c'est clair. Donc, par rapport à cette légende-là, là, je suis content. Après, pour la légende du podcast, pour la légende du sport, j'en suis très, très, très loin. Mais on l'écrit petit à petit.
Tu viens d'en parler, les projets 2021, voilà, ça continue. Mais...
Ouais, ça avance et ça va prendre forme, c'est sûr. Et moi, de toute façon, je vois tout à 5 ans ou à 10 ans. Donc, quand j'ai commencé, c'était en 2019, en juillet. Quand tu prends à 5 ans après, il y a un événement qui va commencer en juillet 2024, qui sera à Paris, qui fait plein de sens. D'ailleurs, on dit Paris 2024, mais c'est les Jeux de la France, en vrai. J'ai vu qu'il allait avoir plus des deux tiers des événements sportifs qui allaient être délocalisés dans des pôles sportifs un peu partout. Tu vois, il va y avoir plein de choses à Lille, plein de choses à Marseille.
Tant mieux, ça met en lumière aussi.
Exactement. Des villes. Et je pense que tu vois la vraie beauté de la France, c'est son territoire. Tu vois. Et ça, c'est vraiment, c'est trop bien si ça se fait comme ça.
Ouais.
Alors, je suis un petit peu tristement égoïste parce que j'habite du coup à Saint-Ouen, que le village des athlètes est sur l'île Saint-Denis, genre à, je pense, 1 kilomètre de chez moi.
Tu pourras y aller à pied avec
ton micro. Ah bah clairement, c'est prévu. Donc après, j'espère que tous les athlètes auront la chance de passer sur le village olympique, mais j'en ai eu quasiment aucun doute, quoi. Mais du coup, voilà, tu vois, et la légende, elle se fera à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra parler de légende ou pas.
Et justement, j'avais une question, c'est une question que j'aime bien poser, qui se pose aussi en entretien d'embauche, mais...
Ouais, vas-y.
Comment tu te vois dans 5 ans ?
Comment je me vois dans 5 ans ? Écoute, je me vois un peu comme aujourd'hui, mais en... Tu veux dire par rapport au podcast ou par rapport à tout le reste ?
Toi, ta vie, ouais, brièvement, ouais, non, pas par rapport au podcast, toi, comment tu te vois dans 5 ans, je sais pas.
Écoute, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais il y a un truc que j'ai envie d'être, c'est essayer de rester humble. Parce que je vois peut-être des gens dans le podcast, autour de moi, qui ont des très beaux succès et qui perdent leur humilité. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de garder. J'ai envie de faire encore plus de sport que j'en fais aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir gardé effectivement toutes ces mêmes valeurs là, quoi. C'est-à-dire être humble, être simple, être toujours aligné avec ce qu'on porte en soi, ce qu'on a au plus profond, avoir la famille et ses proches.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En priorité dans ses choix. Voilà, j'ai envie d'être cette personne-là. Après, professionnellement, j'ai pas de limite. Par rapport au podcast, j'ai pas de limite. Je me vois bien sur le podcast à ce qu'on soit une petite équipe, 3, 4, 5 personnes. Pas forcément à bosser à plein temps, mais à bosser de manière un petit peu libre. À avoir un petit studio, un vrai. Que je pourrais louer à peut-être à d'autres podcasteurs sportifs qui veulent venir enregistrer chez nous. Je vois extraterrien un peu aussi comme je vois d'autres podcasts extraterriens, tu vois. Je vois un extraterrien santé, je vois un extraterrien business, tu vois.
Super intéressant, ça.
J'aimerais beaucoup aller interviewer des experts santé, tu vois, en lien avec le sport, mais aussi en lien avec comment devenir un petit champion du quotidien, tu vois. Voilà.
Et puis, enfin, la santé, enfin, ça fait partie de la vie et encore plus des sportifs parce que si t'as pas la santé, tu peux pas performer ni même faire ce que t'aimes dans le sport.
Ouais. Donc, ça serait j'aimerais bien aller interviewer des experts sur la santé, mais avec un très bon storytelling, comme tous les athlètes ont un très bon storytelling pour garder un peu ce côté histoire et tout. Donc, pourquoi pas d'autres podcasts, pourquoi pas une communauté privée aussi où les gens peuvent se rencontrer. J'aimerais beaucoup que les auditeurs d'extraterrestres se rencontrent, vraiment.
On en a besoin en ce moment, c'est vrai.
Ouais, exactement, exactement.
On a un peu coupé de tout ça, c'est vrai que ce serait, c'est une super idée, ça.
Et que ça soit pas moi le centre de la communauté, que ça soit les athlètes, tu vois, que ça soit des gens comme toi, que ça soit des gens comme Pierre Ambroise, que ça soit des gens comme Stéphane Brognard, comme Thomas Coville, tu vois. Des gens qu'on marquait un peu le podcast extraterrien, qui aiment bien donner, qui sont très généreux et qui se disent pourquoi pas donner un petit peu de temps à cette communauté et pourquoi pas essayer de construire quelque chose de sympa, quoi. Voilà.
Différent que d'un podcast qui dure une heure ou une heure et demie. Non,
T'as
plein d'autres projets, je pense, derrière la tête.
Les idées manquent pas.
Voilà. Faut que tu les gardes et on aura la surprise au fur et à mesure, mais. Non, c'est chouette. Enfin, t'es en train de faire quelque chose de bien dans la vision de futur du podcast, quoi. C'est pas juste, je vais continuer à faire des interviews et basta, quoi. Non, c'est chouette.
Ouais, je pense qu'il faut construire. Bah après, tu vois, là, il y a quelque chose qui marche, qui est en train de trouver un petit business model ou en tout cas te permettre de pouvoir avoir un petit peu de moyens pour investir sur des choses un peu plus sympas, donc tu vois, même juste en fait investir du temps, tu vois, pour préparer un projet, tu vois, par exemple, ne serait-ce que, imagine si demain on me dit tu pars à Tokyo, Bart, et en fait ok mais je fais quoi, enfin tu vois, il faut que je m'arrête, que j'écris, que je prenne mon carnet, que je me mette à écrire, que je contacte des gens, que je vois ce qui est proposé, tu vois, et tout ça, faut avoir du temps, mais ça demande un petit peu de moyens, tu vois, ça s'achète, le temps. Donc le but, c'est vraiment de consolider ça, ce qui plaît, ce qui marche, qui a l'air d'intéresser d'autres des partenaires, et puis après on verra pour la suite. Voilà. Donc,
surtout, n'hésitez pas à faire des retours à Bart sur quand il y a quelque chose que vous ressentez sur un podcast que vous écoutez, parce que je pense qu'il en a besoin justement pour orienter ses projets futurs.
C'est vrai.
Et je pense que c'est satisfaisant aussi d'avoir des retours, parce que des fois on pense pas. C'est vrai que des fois moi j'en ai écouté et j'aurais pu te faire un retour sur un ressenti. Et ouais, faut pas hésiter en fait, parce que
ouais, même les retours négatifs, parce que tu sais que je parlais d'humilité tout à l'heure et j'ai reçu quasiment zéro message négatif depuis le début, mais quasiment zéro.
Alors ça.
Et ça c'est un truc. Enfin, j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'avoir des gens qui me challengent, soit qui me proposent des projets inattendus, comme tu as fait, soit qui vont me dire quand je suis pas au niveau. Et il y a quelques auditeurs qui vont se reconnaître, parce qu'on échange justement avec ces auditeurs là. Bah, j'aime bien échanger parce que...
Ils sont critiques, donc ils te font avancer aussi. Exactement,
mais il y en a très peu. Ils sont trois. Et sinon, les autres personnes... Alors, c'est aussi, tu vois, c'est aussi de la bienveillance. Tu vois, les gens savent que, tu vois, genre, c'est pas mon métier, que je le fais par passion. Donc, c'est sûr que si on me sape le moral...
Ouais, non. Puis, enfin, on apprend tellement. Enfin, je vois pas... Si, après, tu peux critiquer sur une forme, mais tu peux pas, enfin, le contenu est toujours enrichissant.
Ouais.
Tu ressors, tu finis l'écoute d'un podcast extraterrien, enfin, t'en as appris forcément. Tout au moins sur un nouveau sport ou sur une personne que tu ne soupçonnais pas.
C'est clair.
La grandeur derrière le bonhomme qui est juste en photo sur le mur, quoi.
C'est clair. Mais d'ailleurs, t'as parlé de critique, mais ici, au School Lab, là, du coup, dans la boîte dans laquelle je travaille, on est très axé.
Explique un petit peu justement dans quoi tu travailles, parce que ça, je suis pas sûre que
beaucoup
sachent exactement ce que tu fais dans la vraie vie, quoi, dans ton quotidien.
Mon quotidien, moi, c'est très simple, c'est de piloter une équipe d'une douzaine de personnes qui elle-même a pour mission d'accompagner des entrepreneurs à réussir leur projet. Donc nous, c'est vraiment notre mission principale, c'est aider les créateurs, les entrepreneurs à réussir et à être la meilleure version d'eux-mêmes et être épanouis dans leur entreprise. Donc il y a des gens qui créent des associations, il y a des gens qui créent des entreprises, d'autres qui tentent une entreprise et qui n'y arrivent pas. Mais nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner. Donc, moi, je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs, des gens qui créent tout le temps, des gens qui sont ultra motivants.
Et là, ton podcast t'apporte aussi dans ton travail. Enfin, tu prends aussi.
Ah, clairement, ouais.
C'est vraiment, c'est comme moi, le sport m'apporte beaucoup dans ma vie pro. C'est exactement pareil, en fait.
C'est clair. Ça t'apporte. D'ailleurs, bon, petit scoop pour les mondes qui s'entrecroisent. Arnaud Assoumani. Plusieurs fois médaillé aux Jeux paralympiques, sauteur en longueur, triple sauteur, médaille d'or à Rio en triple saut, a rejoint le School Lab pour monter sa boîte. Tu
c'est
vois.
Génial. Bon, voilà, j'allais dire à bon entendeur si quelqu'un.
ça s'est fait déjà.
Exactement,
ouais. Et on discutait, on s'est super bien entendu. Il était venu ici dans les locaux. Je lui avais montré. On se suivait un peu sur LinkedIn et il me dit ouais, tiens, c'est marrant, tu crées beaucoup de contenu sur LinkedIn. C'est hyper intéressant ce que tu fais. J'ai envie de m'y intéresser plus. Et puis après un jour il m'a appelé, il m'a dit ouais, je vous rejoins. Je lui dis écoute, ça commence dans un mois et puis voilà.
C'est
quoi.
Génial.
Donc c'était super cool. Mon principal objectif c'est de piloter cette équipe, d'être le manager de cette équipe. Donc à la fois de leur donner la vision, de leur donner la stratégie, de leur donner des et justement je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais les critiques. Nous chez nous on fait pas de critiques, on fait que des axes d'amélioration.
Voilà. C'est la manière.
Exactement, c'est-à-dire on dit jamais à quelqu'un qu'il est mauvais, on dit jamais à quelqu'un qu'il a pas bien fait quelque chose, on lui dit on est factuel, on va dire voilà, là t'as écrit un email, t'as dit ça et ça. La prochaine fois, j'aimerais que tu rajoutes cette composante-là, par exemple, dans ce que t'as fait.
Mais on évolue aussi grâce à ça. Enfin, si on n'est pas capable de se remettre en question, enfin, on stagne.
Ouais.
Je dis toujours, enfin, on apprend soit de ses erreurs, mais aussi de ce qu'on fait mal et quand on est prêt à écouter ce qu'on peut améliorer, bah c'est la clé aussi pour avancer et évoluer, quoi.
Ouais, clairement. Clairement. Donc voici ce que je fais dans la vie. Comme ça, c'est très clair.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont contents aussi de savoir quel est ton métier, parce que on t'a jamais. Enfin, moi, je savais pas exactement, donc je suis contente de savoir. Ouais.
Peut-être qu'un jour, ça sera dans le sport. Pour bientôt.
À suivre.
Ouais.
Autre question. Alors après, quel est l'athlète qui t'a inspiré le plus, ta pépite sur toutes ces interviews, est-ce qu'il y en a un ou une qui ressort et que tu dis ben oui, forcément
c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que il y a pas un seul athlète qui m'a pas marqué vraiment. Et tu sais, des fois tu peux te dire au bout de 80 interviews, tu peux te dire bon c'est bon,
je suis blasé,
ouais je connais tout, voilà et tout. Et à chaque fois, il y a des nouvelles surprises. À chaque fois, il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles, tu vois, et qui me. Et écoute, je peux te dire que l'invité qui m'a le plus surpris, c'est toi.
Waouh.
À plein de niveaux, parce que.
À plein de niveaux,
parce que. On se connaissait pas. J'ai vu ton record. J'ai vu ton palmarès. Je suis allé regarder toutes tes courses, tes temps et tout. Et je me suis dit, waouh, là, je suis sur une pépite. J'ai contacté. Alors, je sais plus si c'était ton agent ou la personne qui s'occupe. Enfin, t'as pas d'agent, mais t'avais quelqu'un qui te filait un petit coup de main, quoi.
Après, c'est chez Salomon où ils avaient.
Exactement. Et du coup, qui m'avait écrit, et j'ai dit, mais bingo, direct. Deux jours après, on s'est au téléphone. Ça fait une semaine que t'as terminé ton truc. J'étais au téléphone. Tu me dis, non, pas fatigué, nickel. J'aurais peut-être un contre-coup, mais je pense pas. Une semaine après, on fait l'interview. On continue de s'écrire. On se marre à distance. Et un mois après, tu me fais un contre-pied énorme et tu me dis, allez, c'est à ton tour là. T'y vas, je me ramène. Bingo. En plus, on est en plein Covid, donc tu vois, il y a plein de gens qui se disent, ah, faut pas bouger et tout. Et puis là, on profite de la réouverture pour se rencontrer. Donc, tu vois, en fait, c'est que des histoires un peu comme ça. Ouais. Mais toi, en tout cas, toi, tu m'auras énormément surprise et énormément sorti de ma zone de confort. Après,
je t'avoue que l'exercice, il est pas facile non plus pour moi. J'ai jamais fait ça.
Ouais.
Quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, ouais, ça peut être rigolo. Mais encore une fois, c'est sortir de sa zone de confort et se dire, je vais tenter et puis on va voir ouais. Si ça me plaît. Et puis après, c'est toujours le fait, voilà, d'aimer la relation aux autres. Moi, j'étais frustrée de pas t'avoir vu.
Ouais, c'est clair.
On avait échangé, j'avais adoré l'échange. J'adore tes questions. Je trouve que t'arrives vraiment à transmettre des choses et j'avais vraiment à cœur de te rencontrer. Donc, c'est l'occasion. Allons-y.
Allons-y, on y va. Non, après, je peux peut-être, te dire, effectivement, il y a quelques personnalités qui te marquent. Dans cette salle, ici même, il y a eu Pierre-Henri Chouet, le pilote de chasse. Et effectivement, tu vois que c'est vraiment des personnalités très atypiques. Et effectivement, c'était un truc que j'avais pas trop eu dans le podcast. C'était quelqu'un qui avait une intelligence extrêmement mathématique, très rationnelle. Moi, j'ai développé une intelligence émotionnelle avec le temps, mais quand j'étais jeune, mon père m'a poussé, m'a mis des coups de pied au cul pour que je fasse des maths, pour que je fasse une école d'ingé et tout. Donc c'était un peu. J'ai fait une école qui s'appelle l'ISEP, qui est à Paris, à Montparnasse, et qui enseigne les télécoms, l'informatique et l'électronique essentiellement. Voilà, avec une prépa intégrée et tout.
Du coup, elle t'a retrouvé dans cette interview.
Ouais, exactement.
Très mathématique et.
Exactement, ouais. Ce côté où, parce que, pour la petite histoire, j'avais tenté de passer les concours de l'ENAC.
Ah oui, donc.
Et du coup, ça me parlait, en fait.
Exactement, ouais.
Ça me parlait et j'avais une petite fascination. Mon père avait une grosse fascination aussi pour les pilotes de chasse. Parce que mon père, a fait son service militaire avec pendant 6 mois, il a été le chauffeur et l'assistant du général qui a fait le premier essai nucléaire français.
Ok.
Donc c'est un type qui a conduit un, alors je sais plus quel est le nom de l'avion, désolé, je crois que ça devait être un étendard 3 ou 4, et encore je dois dire des conneries, et qui en fait a tiré dans un ballon dirigeable en plein milieu de l'océan Pacifique, donc a tiré un roquette sur un ballon dirigeable à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, et qui a tiré donc très vite, et une fois après avoir tiré et que le roquette est parti sur le ballon, l'avion s'enfuit complètement, le roquette touche, et la bombe tombe en plein milieu de l'océan, quoi. Et donc mon père a eu des histoires un peu rocambolesques avec ce type parce qu'il était dans sa voiture. Alors c'était plusieurs années après, hein, donc il était général maintenant, tu vois.
C'est quand même ouais.
Donc mon père a une espèce de fascination, tu vois. C'était son podcast à lui, tu vois. C'était l'inspiration qu'il avait lui. Et du coup effectivement le fait que je me retrouve là avec un pilote de chasse, c'était la première fois, donc ça m'avait bien marqué. Il y a eu Marine Leleu aussi qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si l'épisode sera sorti, je pense pas au moment où on sortira cette interview, mais là c'était cette semaine et ça m'a, c'était émotionnel. On a pleuré tous les deux quasiment pendant l'interview, donc c'était assez fort. Mais voilà, à chaque fois c'est des connexions un peu uniques, tu vois, et des gens qui te marquent. Et
ouais, donc il y a pas, voilà, quand même le pilote de chasse, ça a quand même marqué. C'est vraiment...
Ouais, là je le raconte parce qu'il y a la petite anecdote, ouais. Tu vois, personnellement avec mon père et tout, donc ouais. C'est sûr. Après j'ai plus des regrets avec le confinement de pas avoir rencontré des gens en vrai. Tu vois, typiquement, tu vois, je t'ai parlé de tout à l'heure de Thomas Coville ou Stéphane Brognard. Je regrette vraiment de pas avoir pu passer 2 heures avec eux parce que on s'est au téléphone, en tout cas, on s'est super, enfin au téléphone sur le petit logiciel d'enregistrement, on s'est super bien entendu. Et il y a des personnalités comme ça où ça me fait super plaisir de rencontrer
Stéphane Brognard. Bah d'ailleurs je l'ai contacté derrière après l'avoir écouté, non, c'était génial.
Ouais, c'était cool.
C'était génial, mais ouais, je pense que le voir en vrai, c'est autre chose aussi.
Ouais, ouais, exactement. Et non, et puis après pour la petite anecdote, je suis allé vivre pendant une petite semaine chez Rudy Koya aussi. Donc c'est forcément une rencontre qui m'a marqué,
oui,
parce que j'ai vécu pendant une semaine chez lui.
Ouais, c'est top.
Donc c'était cool.
Ouais, c'est vraiment s'infiltrer.
Et d'ailleurs Rudy, si tu nous écoutes, quand est-ce que tu m'appelles? Voilà.
Petit non, message.
C'est à moi de l'appeler, mais il pourrait faire un effort aussi.
Ok. Le message est passé. quel est ton rêve? Pas dans le sport.
Ouais.
On y viendra après, mais ton rêve, voilà, tu te dis, là, j'ai un rêve, c'est celui-là, quoi.
J'ai un rêve de gamin, c'est d'aller dans l'espace.
Ah, voilà.
Ouais, j'ai un rêve de gamin. Je suis un énorme fan de Thomas Pesquet. Je pense que
il faut nous faire un podcast sur lui.
J'ai le temps, il viendra, c'est sûr, et on discutera avec lui, et c'est sûr que c'est une personne que j'ai envie de recevoir, et c'est mon rêve effectivement, et j'adore, tu vois, des entreprises comme SpaceX et Elon Musk qui peut-être nous donneront ce plaisir. Alors j'ai un petit complexe parce que c'est pas du tout écolo. Et que c'est une des valeurs qui me prend de plus en plus. Autant je pense qu'il y a encore 3-4 ans, je vais être très... même au moment où je débutais le podcast, tu vois, c'était un truc...
Tu ne te serais pas posé la question.
Justement. Ouais, je me disais un peu... bon, après, j'étais un peu sombre à l'époque, mais je me disais, l'homme est mauvais. De toute façon, c'est la planète qui nous détruira et c'est pas l'inverse. Et la planète, elle est très forte, elle sait se reconstruire. Elle a pris des pluies de météorites et elle s'est reconstruite et elle a recréé la vie toute seule. Elle a pas besoin de nous. Nous, on a besoin d'elle. Exactement. Et depuis, ça a bien changé. Donc, c'est pas du tout, effectivement, c'est pas écolo du tout. Mais je pense qu'on trouvera, dans très peu de temps des moyens de pouvoir y aller de manière beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi.
J'allais dire économique aussi, ouais, parce que...
Et pour la petite histoire, juste à côté, je passe pas mal de mon temps à Station F. Alors, pour les gens qui connaissent pas, c'est un espèce d'énorme hangar avec plein d'entrepreneurs et de start-up à Paris. Et c'est un lieu assez stimulant parce que c'est... les gens se parlent très facilement, les gens s'intéressent aux autres très facilement, et si vous êtes un peu à esprit un peu entrepreneur et que vous avez envie de créer, dites, et que vous êtes à Paris, et dites-le moi, je vous invite. Voilà, c'est, non, mais après, tu vois, j'aime pas du tout la Startup Nation et je dis pas du tout qu'il faut absolument passer par là, mais il y a des endroits à voir, tu vois. Il y a des endroits à voir. C'est comme, je sais pas, si tu vas à Los Angeles, faut aller visiter le Gold Gym de Arnold Schwarzenegger, même si t'aimes pas la muscu. C'est des lieux un peu mythiques, tu vois.
La Tour Eiffel à Paris.
Hein. Voilà, exactement. Mais, bon, quand t'as des passions, il y a des endroits qu'il faut aller visiter. Et juste à côté de mon bureau, il y a une femme qui est incroyable, et qui monte une boîte qui s'appelle Interstellar, et son but à elle, c'est de créer des maisons complètement autonome et qui dont le but sera dans 20 ans, 30 ans de vivre sur Mars.
Waouh.
Et donc tous les jours, je suis au quotidien avec une femme qui doit avoir 35 ans et qui est tous les jours au téléphone, je pense avec la NASA ou ce genre de partenaire et qui crée pour de vrai, hein, pour de c'est pas du
c'est, ouais, en 20 ans, c'est rien enfin.
Oh.
C'est... 20 ans, enfin.
Et elle va y arriver. Et du coup, c'est ultra inspirant et c'est un bonheur incroyable de pouvoir échanger avec
côtoyer,
elle.
Côtoyer, ouais.
Tous les jours, ouais.
Ouais, c'est intéressant. En même temps, ça me fait un peu peur, mais dans 20 ans, on verra.
Ouais, exactement. C'est pas trop où on sera. Mais il y a plein de. En fait, l'idée derrière, c'est de dire que si on arrive à envoyer des êtres humains sur Terre, c'est-à-dire qu'on arrivera à être beaucoup plus.
Sur Mars, tu veux dire.
Sur Mars, pardon. Ça veut dire que sur Terre, on arrivera à être beaucoup plus efficace en termes d'énergie. Donc, en fait, le fait de faire une recherche pour envoyer des capsules autonomes qui vont rester vives sur Mars, ça nous permet aussi de créer des maisons, par exemple, on pourra mettre au Groenland et qui seront beaucoup plus économes et beaucoup plus indépendantes en termes d'économie. Et quand elle m'a expliqué ça, eh ben, je me suis dit, elle me dit que après, imagine, tu fais, tu révolutionnes les villes et t'as beaucoup moins besoin d'eau, t'as beaucoup moins besoin d'énergie, t'as beaucoup, tu sais tout renouveler dans une maison, c'est assez
oui,
intéressant.
Non, c'est une autre manière de voir les choses.
Voilà. Donc il faut se fixer des objectifs ambitieux pour avoir des conséquences qui peuvent toucher le quotidien
à
de tout
minima,
le monde.
Ouais, ouais. Nous concerner rapidement même.
Voilà, exactement.
Et ton rêve de sport ce coup-ci, ouais.
Oula, il y en a tellement. je dirais l'Everest.
Ah, super.
Ouais, je dirais l'Everest.
T'as déjà fait des ascensions ?
Écoute, là, je parle avec un petit groupe de potes et on parle du Kilimanjaro, on parle du Mont Blanc. J'ai fait avec ma mère, j'ai fait je pense une dizaine de 3000, tu vois, en Europe. Donc c'est pas grand-chose.
Ouais, mais on a quand même fait une dizaine, hein, c'est pas rien non plus, c'est 3000 mais ouais. Ça donne déjà une idée sur ta réaction.
Bah en tout cas, j'aime bien, tu vois. En tout cas, c'est un truc qui m'éclate, ça me procure des super bonnes sensations et tout. Et donc ça ouais, ça m'excite pas mal, ouais. Donc je pense après ça demande tu vois beaucoup d'entraînement, de l'expérience. J'ai encore peu d'expérience, je vis pas en montagne, peut-être que c'est complètement idiot de dire ça et c'est peut-être complètement irrespectueux par rapport effectivement à tous ces alpinistes tu vois qui s'entraînent pendant des heures et des heures pendant des années et qui l'ont jamais fait et qui le feront peut-être jamais parce que soit manque de moyens, soit manque d'expérience et tout.
C'est ton rêve là. Tu vois,
ouais,
si
on parle de rêve.
T'arrives à vivre un rêve.
On parle de rêve.
Il fallait le chercher. Enfin, c'est l'Everest, hein, donc.
Effectivement. Et après, j'ai peut-être un autre rêve. Ce serait, et celui-là, je pense que je pourrais l'avoir beaucoup plus facilement. Ce serait d'apprendre à sauter en parachute d'un avion tout seul, tu vois.
Ah oui, tout seul, ouais.
Voilà.
T'as déjà fait, du coup, avec un moniteur.
Ouais, j'ai déjà fait. Et je pense que ça a été la sensation la plus extrême et la plus forte que j'ai eue. Et pour le coup. pour le coup, c'est pas une référence, mais je peux en parler pour avoir testé des substances qui te font exploser ton taux de dopamine et ton taux de sérotonine.
Ouais, en comparaison.
C'est le saut en parachute, c'est plus fort. C'est encore plus fort.
Ça donne envie, tu vois.
T'es en contact avec les éléments, t'es en contact avec l'air, t'es en contact avec la terre, t'es en contact avec toi, t'es en contact avec la gravité. C'est un truc qu'on oublie complètement, la gravité, parce qu'on la contre toute la journée, tu vois.
Voilà, ça paraît tellement naturel, ouais.
Et là, tu peux pas la contrer. Là, tu la subis et tu l'acceptes. Et voilà. Donc
moi je suis pas fan du vide, mais ça donnerait limite envie de tenter le coup, ouais.
Ben moi j'ai beaucoup de sensations dans un avion, tu sais quand tu prends un trou d'air ou quoi.
Ah oui.
Moi je m'accroche, j'ai peur et tout. Ouais. Et
comme tout le monde, je pense quand même.
Mais moi j'ai l'impression que quand je regarde les autres, j'ai l'impression que moi ça me fait 100 fois plus de sensations, tu vois, ou j'ai l'impression que mes voisins dans l'avion, ils
non, ça leur fait rien. Non, ça leur fait rien. Aussi,
moi je réagis énormément, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu sors de l'avion et tout, quand tu fais le saut en parachute, ça te prend aux tripes, mais très, 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 très fort. Et quand tu sais comment contrer ce blocage un peu, et cette résistance à la gravité, tu commences à prendre beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà.
Donc,
ça pourrait être un petit challenge sportif, ouais.
Ouais, et qui est abordable beaucoup plus facilement que l'Everest, donc.
ouais, exactement. Ouais.
Ce serait un beau rêve. J'avais préparé un petit quiz, mais alors il est très rapide. Mais,
vas-y. Pour ceux qui nous écoutent.
Je te fais des propositions et t'as juste à choisir, et ça permet un peu de connaître.
Vas-y.
De connaître un peu plus.
Avec
alors,
plaisir.
Paris, la montagne ou la campagne?
Paris la semaine et montagne le week-end.
Ah. Attaché à Paris quand même, même à l'avenir, ouais. Même si t'as passé beaucoup de temps à la montagne, je pense tu restes Paris.
Je pense que tant que l'INSEP sera à Paris,
après voilà.
Je resterai un peu à Paris.
Après, on arrive sur des goûts. Enfin, moi, j'adore manger, donc forcément, je vais te parler. Est-ce que t'es plutôt enfin, si t'avais un choix à faire entre un steak, une bière et un fondant au chocolat, tu choisis quoi?
Waouh. Pas le steak, c'est sûr. C'est une bonne question. Écoute, je suis tellement gourmand, je pense que ça serait le fondant au chocolat.
C'est le fondant au chocolat, ok. Ouais. Alors après, c'est un vélo, moto ou bateau?
Ah, ça c'est une bonne question. Vélo, moto ou bateau? Écoute, je connais la moto, je connais très très bien le vélo, je connais pas du tout le bateau, pas assez bien en tout cas. Et c'est vraiment un truc qui me tente d'apprendre un peu plus. Donc je réponds le bateau. Je suis très très curieux de... J'ai tellement des copains, en fait j'ai plein de copains là, tu vois, qui sont à l'âge de se louer des bateaux et de partir en week-end ensemble et tout, et qui me racontent les trucs qu'ils font, leurs frayeurs.
Et même dans dans les personnes que tu reçois en podcast, il y en a qui ont une expérience en mer, waouh.
Ouais, ouais, exactement. Et c'est trop marrant parce que ils sont tous un peu à un moment retournés, cramés ou
même là, si on suit un peu le Vendée Globe, enfin c'est
fou. C'est fou ce qui s'est passé, ouais.
Donc ça t'intrigue et ouais.
Et la mer, c'est un élément que je maîtrise très peu et qui me fait et qui m'attire beaucoup, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de personnes, d'ailleurs même Stéphane, tu vois, ça l'a attiré aussi.
Ouais, voilà, qui te donne envie d'aller explorer ce milieu là quoi.
Exactement. Donc, le bateau.
Sur une île déserte, on t'autorise à prendre trois choses. Tu prends quoi?
Un bon bouquin, un kit de survie.
Quand même.
Et une photo de mes fils.
Voilà. T'en as combien?
J'ai deux fils.
On n'a même pas parlé. Ils ont quel âge?
Solal a 10 mois. Et Nakin vient d'avoir 7 ans. Voilà. Donc ils ont un petit écart.
10 mois, ouais, tu dois en plus encore avoir des nuits compliquées, là, 10 mois.
Il fait pas encore ses nuits, il prend son temps.
C'est ça, ouais.
Il prend son temps, il faut être patient et il faut éviter de pas s'énerver, parce que plus je me rends compte que plus je m'énerve et plus je suis impatient,
plus le stress se transmet.
Exactement. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai complètement lâché prise par rapport à ça. Il dort très très bien quand il est dans mes bras, et s'il faut dormir avec lui, il faut dormir avec lui. Voilà. Point. Ouais.
Mais je t'avais même pas posé la question. Enfin, elle était prévue, hein, mais dans le fil de la conversation. Donc.
Ouais.
très bien tout ça. Alors, question peut-être bête, hein, mais ta maison, elle brûle. Ouais. On te donne la possibilité d'emmener un objet. Tu prends quoi? Enfin, un objet ou un quelque chose qui... C'est quoi?
Ma carte mémoire avec toutes mes interviews que j'ai d'avance et que j'ai pas enregistrées sur mon ordinateur. Et vraiment, pour le coup, je pense que c'est ça. Je suis très très minimaliste. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Et tu vois, c'est horrible ce que je vais dire, mais tu vois, mes copains m'achètent des bibelots ou tu sais, ils t'achètent des jeux à la con pour Noël et tout. Je vais jouer une fois et puis après je vais le donner. Ouais. Tu vois, et je le garde pas. Et en fait, j'essaye de vivre avec quasiment rien, tu vois, et que tout rentre dans un backpack, tu vois.
Si t'en as pas l'utilité, ça veut dire que si pendant quelques mois.
Exactement.
Je considère, t'en as pas l'utilité au quotidien, donc ça sert à rien.
Bah, tu vois, mais j'ai un très bon test pour ça. C'est de tous les ans essayer de jeter tout. Tu vois, par exemple, tu vas t'acheter du matos pour la montagne, par exemple. Et tu te l'achètes l'été. Et ben, moi, je me laisse un an. Et si au bout d'un an, j'ai pas utilisé ce matos-là, je le donne ou je le jette. Voilà.
Et puis maintenant, il y a des sites de troc aussi. Enfin, c'est
ouais,
ça
exactement. Aussi, maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas te donner, tu vois. Voilà. Donc voilà. J'essaie de pas trop me surcharger d'objets qui sont pas vraiment utiles.
T'as raison, enfin, de toute façon, je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus vers ça, quoi.
Ouais.
Donc, intéressant aussi sur ton mode de vie minimaliste, on va dire.
Ok.
Et puis, j'ai une dernière question.
Vas-y.
Le sport, seul ou en groupe, pour toi?
Ah, en groupe.
En groupe.
En groupe. Direct. Ouais, direct. Je suis solitaire, mais pour plein d'autres choses, mais pas le sport. Pas le sport, j'aime trop le partager et c'est ce qui me manque le plus, franchement, et je pense comme beaucoup d'entre nous, tu vois, ce qui est le plus dur, on a tous réussi à s'entraîner pendant le confinement, on a tous on a tous réussi à faire nos petits trucs à droite à gauche, mais ce qui a manqué, c'est, tu vois, c'est cette émission collective, ouais, le lien.
Enfin, j'avoue, moi, faire du Zwift pendant 3 heures, ça m'est arrivé, mais c'est horrible, c'est long, t'as pas d'échange. Hier, on est allé rouler 3 heures en VTT avec les copains, mais on a rigolé, tu vis quelque chose,
clairement.
Et ouais, ça n'a absolument rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai que cette année 2020, elle est marquée aussi par la prise de conscience, je trouve, qu'on a de se dire, waouh, la relation à l'autre, elle est vraiment importante, quoi.
Ouais.
J'espère que beaucoup de gens ont pris conscience que, on grandit grâce à ça, quoi. On évolue.
Ouais, ouais. Mais complètement, on est entièrement d'accord et j'ai tellement d'admiration pour ces sportifs solitaires qui arrivent à s'entraîner, à se dépasser tout le temps tout seul et tout. Les nageurs, franchement, les nageurs, ils sont costauds, quoi.
Matin et soir, enfin, c'est non, j'ai toujours dit, j'ai un profond respect pour les nageurs.
C'est pas le sport le plus le plus fun.
T'entends rien déjà. Enfin, je me dis, t'as les oreilles qui sont dans l'eau, donc t'entends pas. Enfin, déjà ça, je trouve ça frustrant. Enfin.
Ah, t'es seul avec toi-même. T'es vraiment seul. Donc ouais.
Quand tu cours seul, je trouve que t'as les oiseaux. Enfin, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des podcasts, tu peux faire plein de choses en courant. Enfin, moi j'aime bien aussi c'est réfléchir, penser quand je cours et je me dis quand tu nages, ouais, t'es seul avec toi-même, quoi, avec ta conscience et donc c'est différent. Mmh. Alors après, si t'as des choses à dire à ton public, c'est maintenant, parce que moi, j'en avais terminé avec mes petites questions que j'avais préparées.
Ben écoute, non, je crois qu'on a... Déjà, on est pas mal, hein. On a tenu plus d'une heure, on a abordé plein de sujets différents, donc non, on est bon. Tu clôtures ?
On clôture. Et ben on souhaite une bonne écoute, enfin moi je souhaite une bonne écoute pour les prochains podcasts de Bart. On a hâte de savoir comment 2021 va se tramer, parce que je pense que ça va être super intéressant de voir l'évolution d'extraterriens. Et puis je te souhaite une très bonne continuation, et puis c'était un plaisir de venir te voir et d'échanger sur toi, et ça nous permet de mieux te connaître, donc ça c'est un grand plaisir pour moi d'avoir fait ça ce soir.
Ok, et je te retourne l'invitation pour ton prochain projet, tu me dis avant et puis on en reparle, et puis tu reviendras sûrement. De toute façon, je sais qu'il y a plein d'invités qui reviendront plusieurs fois sur prendre ce micro là, donc ça me ferait plaisir de
juste
le faire. À bientôt Elise.
Ciao.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.